Alors, espèce de connard, pas faire attention, non?
J'étais en train de discuter.
Non, mais t'es trop ouf, pauvre con!
J'ai un tout petit peu touché à votre rétroviseur.
Connard!
CO2, mon amour.
C'est terrible ce qui vous est arrivé.
Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible! On a touché à ton rétroviseur.
Avec Denis Chessoux.
Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches!
Sur France Inter.
Et voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible!
Et c'est bien pour ça qu'il faut écouter CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous. À la technique aujourd'hui, Mathieu Bérény et notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et Xavier Pessugia réalisent l'émission. Début mai, jour du dépassement des humains dépassés par eux-mêmes. En mai, fais ce qu'il te plaît. En mars, achète les tomates chauffées en masse. En juin, ne te prive de rien. En août, l'avion, je rajoute. Alors dicton, addiction, génuflexion devant nos écrans, nos consolatrices consommation. Bref, le 5 de ce mois, cet indicateur nous dit qu'on a bouffé tout le chocolat. Plus rien dans la boîte, mort à crédit. On est des enfants pas complètement finis, sauf certains.
Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte. Une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
Les élevages industriels sont une gabegie en tout. Eh ben, je me bourre de nuggets et de burgers frites. Les bagnoles polluent, réchauffent. Ben oui, même l'électrique, hein, construite grâce au charbon. Je me rue sur les grosses berlines. La sécheresse gagne. Je construis ma piscine. Le 5 mai, toujours plus dans le moins. Plus une miette dans le buffet ne reste que le trognon. Alors, on laisse la voile, on sort les rames, on a bouffé les intérêts, on attaque la falaise et le capital. Le jour du dépassement. Et chaque année encore plus tôt, hein, mon Toto. Eh oui, l'humanité dévorante a épuisé en 5 petits mois la totalité des ressources que la Terre peut reconstituer en 12. Alors à notre jolie planète bleue, on lui voit maintenant les côtes avec sa langue sèche et gonflée. Alors bien sûr, les dunes blondes du Sahara, comme les splendeurs torrides d'Atacama, font toujours rêver. Mais on enregistre un médiocre taux de remplissage touristique à Madagascar, Port-au-Prince, au Bangladesh ou à Dhaka. Pourquoi s'en faire? On s'en est toujours sorti. L'homme est tellement génial qu'il a inventé même le court-termisme.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement.
Faisons confiance au pouvoir magique ou à Elon Musk, le tout-puissant qui a remplacé Dieu. Ah, il a sûrement une solution. Il touille et ratatouille dans son grand chapeau des lapins, des tweets, des fusées, des colombes numériques. Et de quoi nous envoyer tous ailleurs, en l'air. On a une véritable inflation terrestre de super-héros qui, après avoir dégueulassé la Terre, s'en vont saloper l'espace. Et donc ces jeunes d'AgroParisTech qui font le buzz depuis leur remise de diplôme sont courageux et nous font du bien. Ils sont en opposition, en révolte et en construction d'autre chose, car pas de rejet sans solution. Alors voulez-vous devenir serial killer de ce qui nous fait vivre en cassant la gueule à la nature ou faiseur de petite résilience? Rouler, chimiser, pétroler et pendre jeunesse, c'est pour faire tourner la machine qui nous tue. Eh oui, parce que notre vie quand même dépend de ce qui nous entoure et ça, on ne le sait pas encore. Une femme nous attend en Seine-et-Marne. Elle est peintre, naturaliste. Elle s'appelle Rosa Bonheur. Rosa Bonheur et la nature, c'est un peu notre hors-série de CO2 Mon Amour. Une femme du 19e siècle extrêmement moderne.
Rosa, elle reste quand même assez célèbre. D'ailleurs, quand on voit le nombre de rues qui s'appellent Rosa Bonheur à travers la France, ouais, il y en a beaucoup plus que de rue Gauguin. Ou, hein, mais voilà. Elle a vraiment, elle considère qu'elle a deux ou trois missions qu'elle doit remplir. La première, c'est de démontrer que les femmes et les hommes sont égaux. Elle dira « le génie n'a pas de sexe ». Et c'est aussi ce que dira l'impératrice Eugénie quand elle vient lui remettre la Légion d'honneur en personne dans l'atelier. Mais c'est aussi une des missions dont elle va se sentir investie, c'est démontrer que les hommes et les animaux sont égaux et que les animaux ont une âme, ce ne sont pas des choses, et que ça, elle le sait grâce au regard, le regard étant la porte de l'âme, et donc elle va vouloir le démontrer pendant toute sa vie. Et par rapport à la nature, elle dit que la nature est source de toute chose, donc vraiment une femme terriblement moderne.
Après Vinci, Giono, Colette et la nature, je vous ai présenté, et avant Camus et Van Gogh, Rosa Bonheur et la nature. Peintre des labours et animalière, alors c'était une star au 19e siècle, ensuite elle a été oubliée. Elle est aujourd'hui mise à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, sa ville natale, avant le musée d'Orsay cet automne, mais elle reste quand même peu connue aujourd'hui. Et pourtant son nom claque. Rosalie devenue Rosa Bonheur. Alors elle puisait son inspiration dans son quotidien, mais aussi dans ses voyages en Auvergne, dans le Nivernais, dans les Pyrénées, en Écosse. Elle a toujours aimé la diversité des espèces et leur écosystème. Elle était fascinée aussi par la beauté des grands espaces de l'Ouest américain, même si elle n'a jamais pu s'y rendre. Donc elle a une œuvre tout à fait expressive, dénuée de sentimentalisme, hein, très très réaliste, nourrie des découvertes scientifiques de l'époque et de l'attention nouvelle portée aux espèces animales des terroirs, remettant en cause la hiérarchie entre les espèces. C'est donc très actuel. On la rencontre chez elle, au château de Bie, à Thomery, en Seine-et-Marne, lieu vraiment à visiter, avec une propriétaire passionnée, Catherine Brault. On y est, numéro 12. Entrez au château de Bie. Rosa Bonheur, où êtes-vous ?
Ah, où est-elle ?
Ah bah, là j'ai la propriétaire du lieu. Bonjour Catherine Brault.
Bonjour Denis.
Nous sommes chez vous, ici, dans ce lieu, donc à Thomery Bie. Alors ça, c'est parce que ce nom B-Y, en fait, c'était le nom d'une dynastie avant
de... Non, c'était le nom en fait du lieu dit, ouais. Bie, et donc avec les seigneurs de Bie qui régnaient sur ce petit hameau et qui avaient construit un château donc à la fin du 15e siècle. C'est devenu le château des seigneurs de Bie, ouais. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Alors bien sûr, ça n'a plus trop l'allure d'un château, mais c'est ce qu'a racheté Rosa, et donc voilà, il a été complètement refait au 18e et au 19e siècle, et depuis, il n'a absolument pas bougé, donc on parle pas trop fort parce qu'il y a encore plein de fantômes qui règnent ici.
On va parler de cette femme qui était quand même gentiment barrée, qui était quand même extrêmement libre pour son époque. Point commun d'ailleurs avec George Sand, parce qu'il a quand même fallu demander une autorisation pour enfiler des pantalons pour se retrouver dans un marché aux chevaux.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est effectivement une femme de conviction. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à son époque, elle était très fière d'être une femme. Son père était saint-simonien, donc pour les saint-simoniens...
Progressiste.
Voilà, donc la femme est l'avenir de l'humanité, hein, avant Aragon et Ferrat. Ouais. Et donc, Rosa en est très fière, mais il y a quand même des problèmes, notamment comment aller dans les foires aux bestiaux et dans les abattoirs avec une robe sans se faire sauter dessus. Ouais. Donc, elle va tout simplement demander au préfet de lui accorder une permission de porter le pantalon. Et c'est la première femme à avoir officiellement l'autorisation de porter un pantalon. C'est la fameuse permission de travestissement.
Alors, très moderne, visionnaire, novatrice. Hein.
Absolument. Et quand moi, je me suis intéressée à Rosa il y a 5-6 ans, les gens me disaient, cette femme ringarde. Alors maintenant, ça m'amuse beaucoup de voir que la ringarde qui effectivement défendait les trois causes principales d'aujourd'hui, ça me fait rire.
C'est ce que disait d'ailleurs aussi Victor Hugo. Donc, qu'elle aurait pu peut-être croiser.
Je ne sais pas si elle l'a croisée, mais il l'admirait beaucoup. Et ouais, disait, si j'avais été une femme, j'aurais voulu être à bonheur. Pas mal.
Ah oui, c'est quand même pas mal.
Si mon air vous dit quelque chose, vous auriez tort de vous gêner. Je ne la fais pas à la pose, je suis la femme. On me connaît.
Dans ce ce magnifique parc qui fait un peu plus de 3 hectares. Il faut imaginer à l'époque de Rosa à peu près 200 petites bestioles qui se baladent. Ouais. Donc tout ça en liberté, des sangliers, des moutons, un loup, des chamois, des isards et puis bah, des lions. Elle a deux lions qui se baladent ici, Sultan et Fatma.
Ils ne sont pas venus tout seuls. Hein.
Non, c'est un cadeau qu'on va lui faire. Ouais, alors c'est vrai qu'on va lui prêter d'abord des lions, mais elle n'est pas très à l'aise avec ça. Donc elle va faire quelques croquis, puis après elle les rend dans les cirques. Hein. C'est les premiers cirques. Hein. En France, il y a des cirques partout à cette époque-là, les premiers zoos aussi. Donc Rosa s'y rend. Et puis ensuite, un jour, on va lui offrir une énorme cage avec deux petites bestioles à l'intérieur. Tout le monde est persuadé que ce sont des chats sauvages et en fait, c'est un couple de lions.
Ce qui veut dire que ce rapport-là, donc jouxtant donc la forêt de Fontainebleau, parce qu'on y est en fait.
Et oui. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'installe ici. C'est parce qu'effectivement, le château ressemble pas à un château, qu'il est tout petit, qu'il n'est pas ostentatoire, il n'y a pas des dorures. Et puis surtout, au bout du parc, il y a une grille. Et puis au bout de cette grille, bah, vous êtes dans la forêt de Fontainebleau. Donc avec une lumière extraordinaire, des arbres, des essences d'arbres vraiment incroyables. Et donc c'est là qu'elle se sent bien. Et c'est pour ça qu'elle vient là. Et on est quand même qu'à 2 heures de Paris, en train à l'époque. Hein.
C'est vrai qu'elle a peut-être pas inventé un style de peinture, hein, soyons donc très clairs, c'était pas son
vrai,
truc.
Vous pouvez pas dire ça.
Ah bah alors justement.
Non, justement, Rosa Bonheur a une façon de peindre les animaux qui est complètement différente. À cette époque-là, c'est Bracassas, mais Bracassas, ces animaux, ils sont mastocs, ils sont très bien, c'est très beau, ouais. Mais il ne peint pas les animaux pour eux-mêmes, il peint les animaux pour flatter les hommes. Elle veut peindre les animaux pour ce qu'ils sont. Elle les arrange pas, elle les met pas en scène, voilà. Elle les peint là où ils sont. Et c'est fabuleux, c'est ça qui est beau. Alors, elle invente tout, là.
Non, mais ça, sa modernité était là. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'elle n'était pas dans un courant.
Non, elle appartient à aucun courant. On ne peut pas la placer. Elle n'est pas naturaliste. Non, elle est nulle part. Elle est elle-même. Et elle a sa mission. Elle suit sa mission.
Alors, cette mission, ça se déclenche comment, ça? C'est au moment de l'adolescence
Ah non, c'est toute petite. En fait, avant même de savoir marcher, un jour, elle disparaît. Toute la famille est paniquée. On pense qu'elle est tombée dans la Garonne. Et puis, en fait, on la retrouve endormie entre les pattes d'une vache. Et ça, c'est la vie de Rosa. C'est-à-dire que les animaux, c'est vraiment son refuge. Et donc, pendant toute sa vie, elle va vouloir rester auprès des animaux.
Les petits paysans étaient mes compagnons de jeu préférés. Je leur dessinais tous les autres de la basse-cour. Ma tante disait que mon goût pour les animaux venait de ce que la chambre de mes parents était tapissée de sujets bucoliques.
En fait, quand à l'âge de 12 ans, elle demande à son père « Est-ce que tu crois que je pourrais devenir célèbre en peignant juste des animaux ?» Bah, son père, il est bien embêté parce qu'il n'en sait rien.
Et oui.
Mais c'est ce qu'elle va faire.
Qui était peintre lui-même, d'ailleurs. Aussi.
Il était peintre aussi.
Qui lui a appris la technique.
Après. Il lui a appris la peinture, mais elle a surtout appris seule en allant au Louvre. Dès l'âge de 12 ans, hein, elle passe ses journées au Louvre. Elle copie les anciens. Et c'est comme ça qu'on commence à s'intéresser à elle. C'est comme ça qu'on commence à lui acheter ce qu'elle peint. Et c'est comme ça qu'à 14 ans, elle est autonome financièrement.
Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui assiste de son vivant à la spéculation sur les tableaux. On a spéculé sur elle, ça n'existait pas avant.
Ouais, c'est la première fois qu'effectivement on connaît la spéculation d'une façon importante du vivant de l'artiste. Et là, quand on parle de spéculation à ce niveau-là, c'est une œuvre qui passe de 40 000 francs de l'époque à 268 000 en quelques mois.
Joli culte.
Colossal. Ah ouais, bon, c'est pas le cas en ce moment. Hein.
Non. Et alors, j'ai deux grands bœufs dans mon état, mais j'ai évidemment le labourage dans le Nivernais, parce que donc, lorsqu'elle a 27 ans, donc, c'est devenu son tube, quoi. On la connaît, c'est au musée d'Orsay.
Voilà, c'est au musée d'Orsay, c'est devenu son premier tube, mais ça sera pas le seul, puisqu'en fait, elle va après récidiver avec une œuvre qui va vraiment être mondialement connue, c'est le fameux Marché aux chevaux. C'est ce tableau-là, d'ailleurs, qui va être vendu 268 000. Malheureusement, le duc de Morny, à l'époque, hésite, fait la fine bouche, il veut pas l'acheter pour l'État. Finalement, bah, l'œuvre part aux États-Unis et puis maintenant elle est au Met, quoi. Si on veut la voir, elle est au Met. Elle fait quand même 5 mètres de long, hein, cette œuvre. Elle est extraordinaire.
Elle va plaire aussi bien à la République qu'à l'Empire. Elle rêve de très grande simplicité et en même temps, elle a quand même aussi envie de gloire. Elle s'achète la tranquillité, on va dire ici, mais elle a besoin aussi donc d'aller à Nice pour fréquenter, qu'est-ce qu'on va dire, effectivement, les grands, la jet set.
Voilà, la belle société de l'époque. Mais elle est consciente, elle sait très bien qu'elle a besoin d'être connue pour pouvoir faire bouillir la marmite. Elle veut être autonome. D'ailleurs, quand elle s'achète le château ici, hein, elle devient la première femme à s'acheter un bien immobilier atelier de ce type à son propre nom et avec le fruit de son travail. Ouais. C'est quand même pas rien. Et elle est bien consciente que si elle veut continuer à être indépendante, bah, il faut qu'elle vende. Donc voilà, elle voit les gens de la belle société parisienne une fois de temps en temps. Elle fréquente surtout Paris parce qu'elle adore l'opéra. Et ça lui permet d'aller à l'opéra une à deux fois par mois. Et ça, elle adore ça. Hein, elle renoncera à ça pour rien au monde. Et puis, effectivement, Nice, elle rencontre l'impératrice, elle rencontre la cour d'Angleterre, etc. Mais il n'empêche qu'elle va jamais vouloir céder à la facilité, c'est-à-dire peindre le cheval du duc de je ne sais quoi ou le chien de la comtesse d'autre chose. Ça ne l'intéresse pas, elle refuse. D'ailleurs, un jour, elle rentre chez elle, elle est furax, parce qu'elle a accepté de peindre, je crois, le cheval de je ne sais qui. Elle revient ici, elle dit « mais j'ai accepté son argent, mais jamais je ne ferai cette toile, plutôt mourir !» Et elle va être traînée en justice pour effectivement réaliser ce tableau qu'elle ne réalisera jamais.
Je partais dès le lever du soleil. Ma boîte à couleurs sur le dos, suivie de mes chiens. Comme j'aimais cette forêt de Fontainebleau. C'est ici que Diaz, Rousseau et tant d'autres ont travaillé si longtemps. Mais que de sujets il reste encore à peindre.
Catherine Brault, en quoi Rosa Bonheur, on va dire, avait cette sensibilité écologique ? Sans le savoir, on n'employait pas ces mots-là à l'époque.
Alors, on ne l'employait pas, mais elle a quand même une conscience assez étonnante. Elle va se joindre à Denecourt. Vous savez, Denecourt qui a tracé les premiers chemins de randonnée en forêt de Fontainebleau. Lui, il va faire signer une pétition pour qu'on arrête les carrières de grès en forêt de Fontainebleau. Ça ne marche pas très bien. Et Rosa, qui est mondialement célèbre à ce moment-là, va se joindre à lui et elle va porter cette pétition à l'empereur. Et là, comme par magie, eh bien effectivement, on va légiférer pour arrêter de couper les arbres et donc de détruire l'habitat de la faune. Et donc, elle a vraiment cette conscience-là. Et puis, quand elle a des visiteurs qui viennent ici et qui demandent à voir la plus belle œuvre, elle les emmène dans le parc, elle leur fait lever la tête vers les arbres, elle dit « voilà la plus belle œuvre ». Et elle montre les arbres avec les feuilles et la lumière qui passe à travers. Donc, elle a déjà cette conscience de cette perfection de la nature qui est fragile.
Et Barbizon n'est pas loin non plus. C'est-à-dire que notre Absolument. Première réserve, on va dire, de beauté pour les peintres, là aussi, on s'est battu. Georges Sand, entre autres.
Oui, et d'ailleurs, c'est drôle parce que Rosa fréquente tous ces peintres de Barbizon, donc qui crèvent à moitié de faim, qui viennent peindre sur les armoires, sur les chaises et les tables pour avoir le droit de passer une journée de plus et pour pouvoir peindre en forêt de Fontainebleau. Elle est très amie avec eux, elle va les voir, mais elle, à côté de ça, elle vit dans son château, ça va très bien pour elle, elle vend beaucoup. Donc elle est à cheval entre ces peintres de la nature et puisqu'elle fait ici ces animaux. Elle sera jamais une peintre vraiment des paysages. D'ailleurs, elle dit à la fin de sa vie, si j'avais encore du temps, maintenant je me mettrais au paysage. Bon, elle n'a pas le temps et donc elle continue avec les animaux. Est-ce que vous voulez que je vous emmène voir un arbre qui a 450 ans qu'on vient de faire labelliser arbre remarquable.
Ah bah oui.
450 ans, 5 troncs, et un chêne magnifique et bien sûr que Rosa a connu. Donc on adore aller l'embrasser
bien
cet
sûr.
Arbre. Voilà, le voilà.
Wow, là là.
Alors ce qui est très drôle, c'est que sur ce tronc, on lit l'histoire des animaux de Rosa. Donc on voit les endroits où en fait les animaux se sont frottés et l'arbre a continué à pousser. Et donc il raconte aussi une histoire, cet arbre. Donc 450 ans en gros. Hein. D'ailleurs elle disait quelque chose d'étonnant, elle disait « les animaux comprennent tout aux hommes, les hommes n'ont rien compris aux animaux, il y a la nature ».
Pas mal. Hein.
Mmh. Elle disait ça au 19e siècle et depuis ça n'a pas changé, on n'a toujours rien compris.
Bernard Buffet, pourquoi collectionnez-vous les sculptures de Rosa Bonheur ?
Parce que j'aime beaucoup Rosa Bonheur. C'est une très très grande artiste. C'est très très beau, c'est très très bien fait, c'est étonnant.
C'est très bien fait. Vous venez de dire un mot qui me semble très important.
Et il faut le faire.
Il faut le faire.
Mais oui, pourquoi on a critiqué Rosa Bonheur ? Je ne sais pas pourquoi.
Intéressant hein, ce que dit donc Dubuffet sur Rosa Bonheur. Un personnage pareil, on ne la laisse pas en cours de route, on la retrouve après Lavilliers.
La mer se pavane vers les îles d'or, le vent s'enflamme la Londe, les morts et les îles d'or. Sur la ville plane un songe art déco. Le jardin est calme, Buñuel et Cocteau, Dali, Picasso. Hier des années 30, Hispano-Suisin. Hier des intrigantes en Balenciaga, peintre famélique, Aristo déchu, colonie d'artistes sous le soleil cru. La mélancolie te chope au détour. Les gymnopédies, les rêves d'amour. Un avion s'envole sur cet âge d'or, sur les années folles et sur l'eau qui dort. L'eau ne dort jamais. Je connais des villes, des mers et des ports. Je connais les îles de San Salvador, de San Salvador. Hier des années 30, des jardins anglais allongée dolente, celle qui t'aimait. Les surréalistes, illusion perdue, la peau des artistes sous le soleil nu. La mélancolie te chope au retour. Les gymnopédies, les rêves d'amour.
Noailles sur France Inter, suite de Ce haut de mon amour.
Les oiseaux sont les gardiens du temple, tu comprends? Tu vois, si je pose ma main sur la branche d'où vient le symbole de cet oiseau, eh bien je me sens relié à lui.
Ce haut de mon amour.
En réalité, le pied de l'arbre, c'est sa tête. C'est un être inversé. Les branches sont ses racines. Elles plongent dans le ciel. Dans le végétal, il y a toute la mémoire de l'univers. Vous êtes une partie de cet univers.
Sur France Inter.
Cette peintre aimait la nature, cette peintre aimait les animaux, elle savait qu'elle faisait partie de ce vivant sans le dissocier, un peu ce que nous a dit Yves Montand. Rosa Bonheur, nous poursuivons le voyage avec elle à Thomery, en Seine-et-Marne, un lieu qu'il faut visiter, le château de Bie, avec Catherine Brault. Que du bonheur, ou presque.
D'abord, on a essayé de la discréditer à l'époque. On a même dit qu'elle n'était pas une femme. Une tellement grande réussite, elle a quand même réussi mieux que les hommes de son époque. Hein. Ouais. Elle était plus célèbre que les mecs de son époque. Donc, c'était quand même un peu difficile à avaler pour eux. Et donc, on a essayé un peu de la discréditer, mais surtout à la fin de sa vie. Et puis, quand elle est devenue trop anglaise, comme ils disent. Et en fait, on va effectivement sous-entendre que comme elle a vécu avec des femmes, eh bien, elle était forcément homosexuelle. Alors, elle disait quelque chose de très beau. Elle disait, mais toutes les religions ont leur vestale, pourquoi l'art n'en aurait-il pas ? Je suis la vestale de l'art.
Cette femme, c'est donc assez curieux, parce qu'en fait, elle avait une célébrité absolument incroyable de son vivant. Ça a décliné très vite, donc, après sa mort. Alors que d'autres, qui justement n'étaient pas connus, sont devenus des stars incroyables, hein, que ce soit des impressionnistes, des Monet, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, on la regarde comment, Rosa Bonheur ?
Rosa a quand même été extrêmement célèbre. Par contre, juste après la guerre de 39-45, elle disparaît vraiment. Donc on a cherché à comprendre pourquoi. En fait, c'est assez simple. Pendant la guerre, les hommes se retrouvent sur le front. Les femmes se trouvent à faire tourner l'économie. Ouais. Quand les hommes reviennent, eh bien, il faut que les femmes retournent à leur poste et que les hommes reprennent leur poste. Donc on va commencer à dire aux femmes, vous retournez à la cuisine, etc. Vous allez redevenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Et l'État français, qui a besoin d'enfants, hein, puisqu'on en a quand même perdu beaucoup, eh bien, va glorifier la bonne mère et la bonne épouse. Et on va surtout faire taire toutes ces femmes, on va arrêter de parler de toutes ces femmes qui ont eu des carrières brillantes. Ah oui. C'était pas le modèle qu'on voulait présenter. Donc on arrête d'en parler et à partir du moment où on arrête de parler des gens, ils disparaissent. Et c'est ce qui se passe avec Rosa. Ah. C'est vraiment, même en histoire de l'art, à l'école du Louvre, on ne parle plus de Rosa Bonheur, même pour parler de peinture animalière au 19e siècle.
Oui, on ferme le rideau sur elle.
Complètement, on l'oublie. Quand on commence à reparler d'elle, c'est d'abord les féministes qui en parlent, en disant « cette femme incroyable qui défendait les femmes, etc. » Rosa n'a jamais défendu les femmes. En fait, elle faisait ce qu'elle pensait être juste et normal, et puis que les femmes qui ont envie de la même chose suivent. Ouais. Mais elle n'a jamais lutté pour la condition féminine. C'est ça qui est étonnant. Donc elle va être abandonnée par les féministes parce qu'ils s'aperçoivent qu'elle n'a pas lutté réellement, notamment en 48 ou en 71 pendant la Commune de Paris, enfin en 70, et donc elle va être de nouveau jetée à l'oubli. Et puis réapparaissent la cause LGBT et on attrape Rosa Bonheur, dont on disait qu'elle avait été homosexuelle, et là on en fait l'égérie de la cause LGBT. D'accord. Et c'est un peu raté, quoi. Ouais. C'est pas tout à fait ça.
Hop là.
On est dans le petit salon.
Alors, ce petit salon, mini-rotonde, on va dire, c'est une espèce de sas. En fait, elle faisait la sélection des gens ici.
Voilà, exactement. C'est Rosa Bonheur qui montrait son heureux caractère. Quand notamment la cour venait s'installer à Fontainebleau, donc venait de Paris à Fontainebleau, les mondains voulaient voir Rosa et Rosa ne pouvait pas faire autrement que de les recevoir. Donc elle les recevait ici, très gentiment. Elle s'asseyait dans un fauteuil face à eux, elle discutait. Et au bout d'un moment, les gens s'impatientaient, attendaient d'être introduits dans l'atelier, sauf qu'elle ne les emmenait jamais dans son atelier. D'accord. Et donc au bout d'un certain temps, ils repartaient, mécontents, furieux, promettant de ne plus jamais mettre les pieds ici, et Rosa se frottait les mains. Donc là, vous avez un portrait de Rosa à l'âge de 4 ans. Ouais. Elle est peinte par son père. Et ce qui est amusant, et c'est pour ça qu'on a mis ces deux tableaux l'un à côté de l'autre, là, on la voit à l'âge de 67 ans, ouais, à l'âge de 4 ans, et on voit le même caractère, oui, la même détermination.
Exact.
C'est assez flagrant. Hein.
Alors son père, il a laissé un peu tout le monde dans la misère, non ou pas ?
C'était un personnage assez intéressant, assez haut en couleur, fantasque, fantaisiste, philosophe. Il a quand même beaucoup aidé sa fille, puisque finalement, il a accepté qu'elle devienne peintre, parce qu'il était complètement débordé par la gamine. Mais à côté de ça, complètement inconséquent. Quand il avait un peu d'argent, il jetait l'argent en l'air et il le jetait sur le sol en disant, voilà, quand on n'aura plus d'argent, il suffira de se baisser. Donc la pauvre Rosa, qui avait 11 ans à l'époque, constate à quel point il va falloir qu'elle prenne les choses en main, parce que sinon, ils n'y arriveront pas.
Je ne peux me défendre d'un serrement de cœur toutes les fois que je vois mon labourage nivernais. C'est pourtant cette toile qui a créé en réalité ma réputation. Quelques jours avant sa mort, mon père examinait encore mon travail en me disant « J'ai trouvé en toi la réalisation de mes ambitions artistiques. » Pauvre père. Il ne soupçonnait pas que le prix de ma peinture était destiné à payer ses funérailles. Il n'avait que 53 ans.
Elle est devenue adulte assez vite, quand même.
Elle est devenue adulte quand sa mère meurt à l'âge de 11 ans. C'est elle qui va effectivement gérer la famille. C'est elle aussi qui va nourrir la famille quand elle a 14 ans. Hein. Sans elle, je ne sais
avec
pas.
Avec ses premiers tableaux, là, donc.
Voilà, avec les tableaux qu'elle va réaliser au Louvre, les copies qu'elle va faire du Louvre. C'est assez bouleversant, hein, l'histoire de Rosa, parce que c'est une femme forte qui va réussir une carrière exceptionnelle et à la fois, ça reste une petite fille très fragile, qui a besoin qu'on l'aime et qui va revenir un jour où elle a fêté Noël avec les enfants de l'école d'à côté auxquels elle a offert des cadeaux. Elle revient et elle est toute malheureuse et on lui demande pourquoi et elle dit « mais ils ont tous eu des cadeaux sauf moi ». Et là, à l'époque, elle a 77 ans, quoi.
Allez, on quitte le petit salon. Et on arrive dans l'atelier. Des têtes de chevaux, des bois, évidemment, des cerfs, une tête de sanglier.
Alors, elle dit que c'est son sanctuaire, Rosa Bonheur. Alors, effectivement, ce qui peut étonner, voire même choquer au premier abord, ce sont tous ces animaux qui sont là, empaillés. Ce ne sont pas des trophées de chasse. Ce sont les animaux du parc. Quand un animal meurt, pour Rosa, c'est insupportable. Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu sa mère à 11 ans et donc toute séparation est épouvantable. Et donc, elle a trouvé un système, ça se faisait beaucoup à l'époque, mais elle le fait, elle, naturellement. Tous ces animaux vont être empaillés et elle va les garder auprès d'elle. Et donc là, vous avez sa jument favorite, Grisette, mais vous avez aussi le sanglier Kiki, le caïman Patrocle, le loup Ernest, la fameuse lionne Fatma, enfin voilà, tous ces animaux-là avec lesquels elle dit qu'elle ne pourrait, sans lesquels elle ne pourrait pas créer. Donc c'est très important pour elle.
Alors là, on a donc ce tableau, c'est Rosa qui est jeune avec...
C'est un petit taureau, c'est un taurillon.
C'est ça, un taurillon.
Alors ce tableau, il est très étonnant. Donc elle a 37 ans, donc elle n'est pas si jeune que ça, mais c'est une fort belle femme. 37 ans, elle vient de devenir mondialement célèbre avec la vente du marché aux chevaux, ce fameux tableau qui se trouve au Met maintenant. Et la personne qui l'a acheté, qui est Ernest Gambard et qui va devenir son agent, va promener ce tableau, le marché aux chevaux, un peu partout dans le monde avec un succès absolument colossal. Il aurait aimé emmener Rosa Bonheur avec lui, mais bien sûr, c'est pas possible. Donc, il fait réaliser son portrait officiel par Édouard Dubuff, qui est le portraitiste de la famille impériale, carrément. Hein. Et donc, ce portrait, Rosa Bonheur va venir le voir quelques semaines plus tard dans l'atelier. Et là, ça va pas du tout, parce qu'il l'a peinte appuyée sur un guéridon. Et elle trouve que le guéridon est parfaitement ridicule. Ça ne correspond pas à son image. Et donc, s'ensuit une espèce de discussion entre les deux. Et finalement, elle se retrouve...
Je vais vous mettre sur un taurillon, là.
Non, il va lui donner le pinceau, carrément. Il va se débrouiller avec. C'est encore plus drôle.
D'accord.
Et c'est elle qui va peindre le taurillon.
Lui, il l'a peint, elle. Et donc,
voilà.
elle a peint le taurillon.
Elle peint le taurillon. Elle supprime le petit meuble. Et elle met un taurillon à la place. Et alors, ce qui est très drôle, c'est quand même qu'il faut s'imaginer qu'à cette époque-là, Rosa est très célèbre. Donc, elle est invitée absolument partout. Ouais. Et on pourrait imaginer qu'elle aurait pu peindre un animal un peu plus noble, un cheval, un très beau chien. Enfin, pas du tout. Elle peint une vache, quoi, quand même. Et en fait, ce qu'elle veut mettre en avant, c'est l'animal. Parce que lui, il est très réel. D'ailleurs, il s'avance par rapport à elle. Et il a un regard qui est tourné vers nous. Et on a l'impression qu'il va venir nous lécher la joue. D'ailleurs, Rosa trouvait qu'il n'y avait rien de plus merveilleux que de se faire lécher la joue par une vache.
Elle a raison, c'est bien.
Ah bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. C'est... Mais voilà ce personnage très étonnant qui va essayer de passer derrière l'animal. Et ça, c'est totalement Rosa qui se moque éperdument de ce qu'elle est et de l'image qu'elle donne. Ce qu'elle veut, c'est mettre l'animal en avant.
Un curieux document nous montre à quel point Rosa Bonheur était célèbre à l'étranger. En 1870, le roi de Prusse lui adressa spontanément un sauf-conduit. Rosa Bonheur a eu de notre temps un admirateur très inattendu. C'est Jacques Prévert. Oui, Jacques Prévert a composé un poème devant le taureau de Fontainebleau.
À Fontainebleau, devant l'autel de l'Aigle Noir, il y a un taureau sculpté par Rosa Bonheur. Et un peu plus loin, tout autour, il y a la forêt. Et un peu plus loin encore, joli corps, il y a encore la forêt. Et le malheur. Et tout à côté, le bonheur. Le bonheur avec les yeux cernés. Le bonheur avec des aiguilles de pin dans le dos. Le bonheur qui ne pense à rien. Le bonheur comme le taureau sculpté par Rosa Bonheur.
évidemment, les animaux vivants n'allaient pas rentrer ici, Catherine, donc ils n'allaient pas prendre la pause. Comment ça se passait ?
En fait, elle se mettait dans le parc où elle avait pas mal d'animaux. Il y avait un petit temple, en fait, qui ressemblait un petit peu à un temple des amours. C'était son atelier champêtre. Elle se mettait là, il y avait les animaux au milieu. Et puis elle les voyait passer, elle les croquait à toute vitesse. Et en fait, elle avait des milliers et des milliers de croquis et d'esquisses qu'elle conservait pendant toute sa vie. Elle allait aussi dans les foires aux bestiaux, donc comme ça, elle pouvait les croquer. Et puis, elle fréquentait les cirques, les zoos, pour voir les animaux un peu exotiques qu'elle allait dessiner jusqu'à ce qu'elle en ait ici dans le parc. Oui, elle les croquait en fait. Elle avait une dextérité absolument extraordinaire. Elle, sur une même toile, elle prenait, il y avait 15, 20, 80 postures du même animal. À chaque fois qu'il changeait de pose, hop, elle changeait de dessin. Ce qui fait qu'on a des toiles fabuleuses avec un animal dans 50 positions.
Un petit oiseau bleu sur une toile blanche, au fond d'un atelier, s'ennuyait le dimanche. Entre le vieux tapis qui prenait la poussière et le poêle qui en fumait, mais ne chauffait pas l'hiver.
On a quitté cet atelier de Rosa Bonheur. Que peut-on vous souhaiter maintenant, Catherine Brou?
Eh bien, que Rosa Bonheur devienne la prochaine Marianne de la République française.
Ah, pas mal!
J'aimerais bien. En fait, à la place de choisir des femmes qui ont des belles fesses et des beaux seins, choisir une femme qui a un beau cerveau, ce serait bien.
Merci Catherine Brou de nous avoir présenté donc cette femme très actuelle, très moderne et qui avait compris plein de choses en matière évidemment d'écologie. Donc le rendez-vous, ça peut être à Thomerie donc en Seine-et-Marne pour visiter vraiment à l'année donc le château de Bie et donc revisiter son histoire. Bordeaux, ça c'est l'exposition cette semaine qui va ouvrir. Et puis Orsay, ce sera donc à l'automne prochain. Donc Rosa Bonheur, merci à Mathieu Bérini qui était aujourd'hui la technique. Au mixage, il y avait Valérie Lavalard pour le mixage du reportage, Camille Blanès et Xavier Pessugia, bien sûr, qui a colorisé, qui a sorti tous les petits sons, toutes les ambiances que vous connaissez. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, alors on change complètement, on aime bien ça, nous irons dans les marais de l'Avour. Où est-ce ? Eh bien, c'est dans le département de l'Ain, et là, il se passe des choses assez jolies en matière de protection donc, de la nature. Puis après, ce seront des ours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end. D'excellente fin de dimanche. Et puis les podcasts, vous en avez l'habitude, pour vos enfants avec Bestiole, CO2, Mon Amour bien sûr, les éditos de CO2, Mon Amour, vous pouvez les écouter aussi à part, et puis, la tue du mon petit loup, là pour les enfants vraiment, pour les zéros, enfin zéro c'est un peu court, mais jusqu'à 10, 12, 13 ans, trouver des albums, là vraiment vous en avez plein depuis de très nombreuses années.